Après 300 mètres, vous avez atteint votre destination sur la gauche.
Showcase. À la rencontre de White Velvet.
Vous avez atteint votre destination sur la gauche.
Je suis au Havre pour Showcase en compagnie de White Velvet. Bonjour. Alors, je sais même pas comment t'appeler. Est-ce que je t'appelle Mademoiselle Richard? Est-ce que je t'appelle Juliette? Est-ce que je t'appelle White Velvet? Madame Velvet? Mademoiselle White?
C'est un peu comme tu le sens, mais moi, je m'appelle Juliette. Mon prénom, c'est Juliette.
Alors, enchantée, Juliette. Merci de nous recevoir, en tout cas, chez toi, parce qu'on est chez toi, là.
Oui, on est dans mon appartement, au Havre, en face du port de Plaisance.
Avec une vue magnifique sur la mer, on a la chance d'avoir un soleil formidable qui claque dans les carreaux, sur tes murs blancs, white. White Velvet, c'est une jeune fille qui a changé de prénom pour avoir un nom particulier. Est-ce que c'est un groupe qui s'appelle White Velvet ou c'est quoi la définition de White Velvet?
Je vais pas arriver. C'est compliqué à dire. White Velvet. Ouais.
Pourtant, c'est simple.
En fait, c'est surtout que j'avais pas envie de que ce soit mon prénom et mon nom, parce que tout simplement, j'estime que White Velvet, c'est jamais uniquement moi. Mmh. La plupart du temps, je suis entourée de musiciens. Pour faire des disques, je suis entourée d'un producteur musical, de quelqu'un qui va mixer. Donc en fait, tout ce que je fais sous ce nom White Velvet englobe d'autres personnes avec moi, donc j'avais envie de donner un nom au projet qui n'est pas mon nom. Mais voilà, après c'est mes chansons et je peux les jouer guitare-voix, mais j'avais besoin de donner un nom à ce projet, de le différencier de moi.
Ok. Et du coup, tu parlais de gens qui t'entourent. On sent une énorme influence dans certaines compositions d'un monsieur qui, lui aussi, n'a pas un vrai nom, puisque au départ, c'est Maxime, et en fait, c'est, on le connaît beaucoup plus sous le pseudonyme de Mezzanine.
Oui.
Il a participé, j'imagine.
Oui, c'est le bassiste, en tout cas sur scène. Et pour ce qui est des enregistrements, il a fait des basses et des guitares additionnelles, en fait.
D'accord.
Et il m'a aidé à faire certains arrangements de certaines chansons.
On sent la patte.
Oui.
Dans certains titres. Mmh. Alors, Showcase, ça se veut une émission intemporelle. On parle, on découvre une artiste ou un artiste ou un groupe de manière acoustique. On s'intéresse un peu à son univers, etc. Cependant, on doit vous préciser que nous sommes en octobre 2019. Il fait beau, il fait chaud. Et l'actu est brûlante pour toi. On va faire vraiment un point rapide sur ton actu pour pas fausser l'idée qu'on se fait de Showcase, mais simplement pour situer le contexte dans lequel nous sommes actuellement.
Alors là, j'ai sorti un premier EP, petit album de 6 titres, qui s'appelle Adulthood et qui est sorti le 13 septembre. À la suite, j'ai sorti un clip pour illustrer Adulthood, qui s'appelle, enfin c'est sur le titre Maybe If I Died, on a fait un clip et voilà, et maintenant je fais des concerts, j'essaye de emmener Adulthood le plus loin possible et de le faire entendre au public le plus possible.
Voilà, donc tout ça on peut le retrouver sur Facebook, compte Insta, iTunes, etc. Enfin tous les
toutes les plateformes.
Voilà, on mettra les liens de toute façon sur dans YouTube. La description de cette interview, de cette émission. Comme ça, vous allez pouvoir voir un petit peu ce qui s'est fait à cette période-là. Mais entre temps, si vous écoutez cette émission en 2022, par exemple, eh bien sachez que en octobre 2019, l'actualité est celle-ci pour White Velvet. Alors on est dans ton appartement, on est bien assis dans ton super canapé des années 70, a priori. Il y a plein de petites références comme ça, les fleurs marron sur le petit coussin, ça c'est très typique 70s. Il y a plein d'objets de récup, des vieilles affiches. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton univers, dans quoi tu baignes? C'est très rétro dans l'ensemble.
Oui.
Formica sur les chaises.
Oui, oui, ça se voit effectivement que je suis un peu passionnée des années 60-70. pour tout ce qui est ameublement, décoration, vaisselle aussi, parce que j'ai une petite tasse mobile aussi à fleurs vertes. Et du coup, ça a toujours été important pour moi de m'entourer de tous ces objets des années 60. Donc effectivement, j'ai cette table que j'ai eue chez Emmaüs, des chaises en formica. Et alors les affiches, j'ai pas d'affiches vraiment années 60. Si, il y a l'affiche Martini, une pub Martini. Sinon après, c'est plutôt des affiches de concerts, de spectacles, d'expositions et de groupes que j'aime bien. Voilà, il y a aussi des carreaux d'une ancienne table. et une photo de ma grand-mère et un dessin de ma grand-mère.
Alors il y a une vieille horloge, pareil, formica jaune, qui est exceptionnelle, intemporelle aussi celle-là.
Ouais, et celle-là, je l'ai carrément fait réparer chez un horloger parce qu'elle ne fonctionnait plus. Et au départ, il a voulu me vendre ça, genre 200 euros la réparation, parce que c'était un système d'horloge qui n'existait plus maintenant. Et en fait, il a juste changé le système et ça coûtait beaucoup moins cher.
Oui.
Mais c'est pas les aiguilles ne sont pas d'origine du coup.
D'accord. Oui, alors effectivement, maintenant que tu le dis, on voit qu'effectivement les aiguilles sont pas du tout, sont pas particulièrement raccord avec. Parce que normalement, sur ce genre d'horloge-là, les aiguilles étaient vraiment très pointues et assez longues. Mmh. Et j'imagine même qu'elles étaient dorées.
Je crois qu'elles étaient noires, mais disons qu'elles avaient une forme un peu spéciale, un peu jolie, et que là, c'est juste
deux aiguilles.
Très noir.
Voilà. Alors, tu parles, voilà, on voit aussi ton meuble, ça c'est pareil, c'est très années 60, c'est une espèce de bahut avec des pieds un peu hexagonaux, une espèce de plaquage faux bois, mais avec des poignées en. Je sais pas si c'est du laiton ou c'est une imitation de métal plastique mélangé.
Métal.
Et voilà, et ça c'est typique aussi. Et donc tu nous dis, voilà, je suis très influencé par les années 60 dans la déco, dans tout ça, bon, on le voit. Est-ce que ça se. Enfin, moi je trouve que ça se ressent pas dans ta musique, il n'y a pas vraiment de référence par rapport à ça.
Non, pas spécialement en fait dans ma musique. Il y a certains artistes des années 60, 70 qui m'ont inspiré, que j'admire toujours, que je respecte, mais j'ai pas spécialement mis de cette époque dans ma musique. Mm-hmm. C'est plus quelque chose d'esthétique pour moi, que j'aime vraiment l'esthétisme de cette période.
Il n'y a pas de récup dans la musique, en fait. t'as pas chopé tes accords à Emmaüs.
Non, mais après, si. Je pense que de toute façon, la musique d'avant qu'on écoute nous influence forcément. Et de toute façon, la musique actuelle est toujours influencée par la musique du passé.
De toute façon. Alors, on continue à faire un petit peu le tour du propriétaire. Moi, je fais un tour d'horizon avec mes yeux de là où je suis assis. J'ose pas trop parce que c'est pas chez moi non plus. Je vais pas commencer à m'immiscer dans ton intimité. Je vois un rideau vert là qui fait une séparation. Il y a quoi derrière ?
Il y a ma chambre.
Ah, qu'est-ce qu'il y a dans ta chambre ? En dehors de ton lit, évidemment.
Imagine. Mais attends, très important parce que c'est un lit, tu vois, un peu comme les.
Ah, dans le même genre, ouais. Ok.
Non, mais sinon, dans cette chambre, il n'y a vraiment qu'un lit, tu vois. C'est vraiment une chambre dans laquelle on dort. Il y a des vêtements. Et c'est pas une chambre très intéressante. Il n'y a pas de déco, tu vois, comme ici.
Ok, elle tient sa fonction de chambre.
Ouais, c'est une chambre avec juste un cadre au-dessus du lit, qui est un tout petit rectangle rouge, dans lequel il y a un tissu blanc à pois rouge. Et en fait, c'est un bout de tissu de la robe de mariée de ma sœur quand elle s'est mariée.
Oh, c'est mignon.
Voilà, c'est le symbole de l'amour. Voilà, et derrière cette chambre, il y a une salle de bain tout à fait banale aussi.
Avec si on finit le tour, en fait, c'est un U.
Ouais, en fait, c'est tout un. Oui, c'est ça, c'est un U. C'est même un cercle, en fait, parce qu'il y a.
On peut recommuniquer par.
Non, c'est fermé la salle de
D'accord,
bain.
D'accord. Ok.
Mais ouais, c'est tout en rond comme ça, avec les toilettes au milieu.
Ok, d'accord. Les toilettes sont centraux.
Voilà.
Ça marche. Et petite cuisine en couloir.
Remplie de vaisselle des années 60.
Voilà, oui, j'ai pu constater aussi.
Des tonnes de verre, beaucoup de verre.
Ah, alors le verre.
Beaucoup de verre à bière.
Donc, collection des verres à bière pour l'esthétisme ou pour le contenant et le contenu?
Pour le contenant et le contenu.
D'accord.
Et l'esthétisme. Alors parce que j'aime bien boire des bonnes bières dans des beaux verres à bière.
Ok.
Enfin, des bonnes bières, je bois de la 16, hein, mais.
Voilà, j'allais attaquer le terrain, mais si on part sur de la 16, du coup, il y a des puristes, à mon avis, qui ont dû décrocher.
Non, je suis née en Belgique, en plus, donc c'est un peu honteux de ma part, mais j'avoue que j'aime la bière. Bah, en fait, les Belges aussi, hein, beaucoup aiment la Pils, la bière comme la Jupiler ou la Mass, la bière la plus basique qu'on trouve en Belgique. Moi, c'est ça que j'aime bien.
Alors,
j'ai
attention,
plein de bières Jupiler chez moi.
On rappelle évidemment que l'alcool est
oui, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
Dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Donc voilà, on a cité des marques, on est désolé, mais c'est pas grave. On mettra des bips, les gens essaieront de deviner. On va faire un jeu. C'est trouver le nom de la bière cachée derrière le bip. Donc le contenant, le contenu. Et donc, oui, toi, tu restes finalement sur des bières relativement douces et bon marché.
Oui.
Finalement.
Tout à fait. Je reste sur mes basiques depuis que j'ai. Que, je ne vais pas dire l'âge auquel j'ai commencé à boire de l'alcool, mais. Depuis que j'ai commencé, j'ai toujours bu des bières basiques. J'ai jamais changé. C'est pas comme les gens aujourd'hui. Tout le monde boit de la IPA parce que c'est très à la mode et tout. Et moi, je trouve ça dégueulasse.
Ah, c'est très très particulier. On se met pas à l'IPA du jour au lendemain. Hein. C'est ouais. Comme devenir végétarien. Il y a un pas avant. Ouais, toute une éducation étapes. À faire. tu parlais justement de tes origines belges. Est-ce que tu y retournes de temps en temps? Comment ça se passe?
En fait, je suis juste née en Belgique parce qu'il se trouve que mon père bossait beaucoup en Belgique. Il est metteur en scène et il était comédien aussi. Et donc mes parents vivaient en Belgique quand je suis née. Mais je suis restée que 6 mois parce qu'après ils sont venus en France. Du coup, j'ai pas une grande histoire avec la Belgique non plus, mais j'y suis née. Et mon père, par contre, travaille toujours en Belgique et il fait toujours ses spectacles avec des compagnies belges. Du coup, on y retourne tous les ans, quasiment, pour un festival qui s'appelle Noël au théâtre, pour aller voir un de ses spectacles chaque année.
D'accord. Et les parents sont d'origine belge aussi ou c'est uniquement le fait du hasard que tu sois né là-bas, en fait?
C'est le hasard parce que mes parents sont français, sont nés en France.
D'accord. Donc, comme la chambre, c'est très basique, finalement,
ouais.
Très neutre. On a oublié d'évoquer une petite pièce qui se trouve, enfin, c'est entre guillemets, c'est entre la pièce et pas la pièce, mais juste derrière notre canapé, ce qui fait office de ton entrée, finalement, c'est une sorte de petit studio que j'ai pu apercevoir en arrivant. D'ailleurs, si je pousse un peu le rideau, je vois qu'il y a un bureau avec micro, imprimante, etc., quelques câbles. Est-ce que c'est là que tu enregistres la majorité des choses ou tu maquettes uniquement ?
Je maquette, okay. Ouais. J'enregistre rien ici. Moi, je ne suis pas capable d'enregistrer un disque toute seule. Enfin, en tout cas, je ne l'ai jamais fait pour l'instant. J'estime pas que j'ai le talent d'un Gaëtan Le Calvez qui a produit premier EP. Et donc non, ce petit bureau, cette petite pièce, c'est l'endroit où je compose, où je crée mes chansons, où je fais des maquettes, où je travaille aussi beaucoup. Je passe beaucoup de temps sur le bureau à envoyer des mails, à faire de la communication sur les réseaux sociaux, etc. À organiser un peu tous les concerts à venir. Et voilà. Et quand je fais de la musique, oui, c'est plutôt de la composition et de la maquette.
Alors, c'est vrai que tu es très, très, très présente sur les réseaux. C'est un deuxième boulot à part entière.
Ah oui, complètement.
D'être, en fait, maintenant, justement, quel est ton regard sur la manière dont on distribue la musique aujourd'hui?
J'ai pas de regard critique spécialement par rapport à la manière dont est distribuée la musique aujourd'hui. Seulement, il est clair que tout ce qui est physique, le vinyle, le disque, est en train de disparaître, en tout cas se vend beaucoup moins, et du coup, tout passe par Internet, tout passe par la communication, les plateformes digitales, etc. Et donc, c'est un boulot à part entière, effectivement, de s'occuper de tout ça, et ça fait du bien quand on a des professionnels qui nous entourent pour aussi s'occuper de cette partie. Moi, j'ai un attaché presse qui m'aide beaucoup à promouvoir mes chansons. Donc ça, c'est super. Mais après, tout ce qui est autour, les réseaux sociaux, la communication autour de ça, pour l'instant, c'est encore moi qui m'en occupe. Après, j'aime bien le faire. Donc, et puis, je trouve que quand l'artiste le fait lui-même ou elle-même, ça ressemble aussi à sa façon de s'exprimer. Et
ça reste encore vrai.
Ouais. Donc voilà, mais après moi je suis quand même, comme je suis attachée aux années 60, aux objets des années 60-70, c'est clair que j'adore les vinyles. J'ai dans ce meuble dont on parlait tout à l'heure, en fait, il y a une porte bleue qui s'ouvre latéralement et dans laquelle il y a ma platine vinyle. Et pour moi, enfin, j'ai plus du tout de CD pour le coup. Le CD, je trouve que, enfin, j'en sors toujours et j'aime bien cet objet qui est des années 90 plutôt. Mais c'est vrai qu'il s'achète beaucoup moins et même je vois en concert que des fois je vends plus de vinyles que de CD parce que les gens trouvent, enfin, c'est un objet, un bel objet et voilà, les gens ont maintenant des platines chez eux à nouveau, donc c'est ça revient.
Alors qu'est-ce qu'on peut trouver sur ta platine?
Alors,
si tu devais citer, là tu me dis par exemple, tiens, on va écouter un disque, qu'est-ce que tu me mettrais dans, quel serait ton choix?
Alors, j'ai une petite boîte bleue là à côté de moi, dans laquelle il y a plein de vinyles, et aussi sur le meuble dans lequel il y a la platine vinyle, il y a quelques vinyles qui sont ceux que j'écoute plus en ce moment en fait. Et dans ceux qui sont dans le meuble, il y a le mien, mais c'est plus pour eux, c'est pas parce que je l'écoute, mais je suis quand même contente de l'avoir et j'avais... Du coup, je l'ai mis dans mon petit meuble. Mais non, à part le mien, il y a Debut de Björk qui restera toujours dans ce meuble parce que je l'écoute depuis toujours et je m'en lasse jamais. En fait, c'est l'album que je peux... Comment dire ? Il y a des albums qu'on écoute et puis après, c'est autre chose et tout. Et celui-là, non, en fait, il reste dans mes...
Celui-là, tu t'en lasseras jamais, en fait.
Voilà. Et sinon, à part ça, dans les choses plus récentes, il y a un album de Kurt Weill, le dernier album de Kurt Weill, que j'ai écouté il n'y a pas longtemps, là. Et sinon, il y a l'album de Forever Pavot aussi, que j'aime bien, La Pantoufle. Voilà, je ne sais pas ce que j'aurais mis. Il y a aussi l'album de Sufjan Stevens, que j'adore, qui est sorti il y a quelques années. Voilà. C'est à peu près tout.
C'est déjà pas mal. Ça fait une belle playlist.
Ah oui, il y a un album de Yves Simon aussi que j'aime bien.
Ah.
Ouais. Comme quoi, il y a quand même des choses qui sont un peu...
Donc c'est très hétéroclite.
Il y a des nouveautés et des choses beaucoup plus anciennes, ouais. Et puis dans des styles différents, effectivement.
Ouais, alors Yves Simon, on est dans fin 70, début 80, là, pour le coup.
Ouais.
Avec chanson française.
Ouais.
Et toi, tu chantes en anglais, majoritairement.
Ouais. Très majoritairement, j'ai une chanson en français que je joue en live, mais qui n'a pas encore été enregistrée en studio. Mais sinon, ouais, je chante en français. Oh, pas du tout. En anglais. Je chante en anglais, j'écris en anglais. C'est une langue qui me vient plus facilement quand j'écris des chansons. Après, j'ai commencé à écrire des chansons quand j'avais 14 ans. Peut-être même un peu avant, parce que j'ai commencé à jouer quand j'avais 14 ans. Et bon, forcément... Ce que j'écrivais à 14 ans, c'était un peu simple et... Enfin, après, c'est pas... La simplicité, c'est parfois bien, mais disons que j'avais un vocabulaire un peu limité en anglais quand j'avais 14 ans. Mais même à 14 ans, j'avais quand même déjà envie d'écrire en anglais, et je pense que ça venait principalement du fait que j'écoutais que de la musique en anglais, en fait. Donc j'étais influencée par ça, et puis c'est une langue qui sonne bien, que moi j'adore. Voilà, j'ai toujours adoré la musique en anglais. Et je pense que quand j'étais plus jeune, c'était aussi un moyen de me cacher derrière une langue que tout le monde ne comprend pas forcément en France. Après, j'ai été jouer en Angleterre et je me suis rendu compte que tout le monde comprenait.
Ah zut. Coup,
mais ça ne m'a pas empêché de me sentir bien dans ces chansons, en fait. Et oui, l'année dernière, j'ai voulu me lancer le défi... d'écrire une chanson en français. Parce qu'en fait, c'est un copain qui m'a dit, qui m'a un peu lancé ce défi. Et du coup, je me suis essayée à cet exercice et c'est plutôt agréable en fait aussi. Et surtout, depuis quelques années, j'écoute beaucoup plus de chansons en français, de musique en français qu'avant. Et Yves Simon en fait partie, mais Yves Simon, c'est depuis que je suis toute petite parce que ma mère, elle me mettait ce disque-là quand j'étais toute petite parce qu'il y a une chanson qui s'appelle Juliette. voilà, qui disait « Maman va accueillir des pâquerettes au pays des merveilles de Juliette ».
Vous marchiez Juliette au bord de l'eau, vos quincelles rouges sur le dos. Vous chantiez Alice de Lewis Carroll sur une bande magnétique un peu folle.
Adoré cette chanson. Donc, Yves Simon, il fait partie des rares artistes français qui chantent en français que j'écoute depuis petite. Et depuis peu, il y en a beaucoup d'autres que j'adore qui chantent en français.
C'est vrai que ce morceau-là, j'avais entendu un remix d'ailleurs. Ouais. C'est un truc un peu intemporel. Il est vraiment aérien, tout. Et puis, même ne serait-ce que les paroles, on comprend. Enfin, vraiment, on va cueillir des pâquerettes au pays des rêves et de Juliette. Enfin, qu'est-ce que ça. On est où en fait ? Il nous emmène dans un truc, on ne sait pas où on est, mais c'est chouette quoi.
Ouais. Il écrit très bien en plus, Yves Simon, il est aussi auteur de livres, donc il a une écriture particulière qu'on remarque, je trouve, qui lui est propre quoi.
Alors, on va parler de littérature un petit peu juste après une petite pause musicale, parce que Showcase, c'est aussi l'occasion d'entendre les artistes de manière acoustique. On va écouter un de tes morceaux, tu joues ce que tu veux, c'est open. On prend ce que tu nous donnes, tout simplement. Et puis, on se retrouve bien évidemment pour repartir sur ce fameux sujet littérature.
If I died, you would care about the way I kiss. Maybe if I died, you would be conscious of what you miss. I was walking down the road. You were boasting about all you know. I was down, down, down the way you boast. And I was down, down, down the way you. If I died, you would dare to hear the way I hiss. Maybe if I died, you would be conscious of what is bliss. I was walking down the road. You were boasting about all you know. I was down, down, down the way you boast. And I was down, down, down the way you. Maybe if I died. Maybe if I died,
cette interprétation particulière de Maybe If I Died que vous pourrez retrouver évidemment sur l'EP qui est sorti donc en octobre 2019, en septembre 2019. Nous sommes en octobre et voilà, et on est toujours dans le showcase dans l'appartement de Juliette aka White Velvet, qui nous fait le plaisir de nous recevoir avec son petit café, les petits canapés, tout ce qui va bien. On va continuer. On parlait tout à l'heure de littérature avec la plume d'Yves Simon en termes de chansons. Et tu m'apprends que Yves Simon écrit aussi des livres et qu'il fait partie de tes livres de chevet, a priori.
Oui, alors j'ai Océan de Yves Simon sur ma table de chevet depuis plusieurs mois, parce qu'en fait, j'arrive pas à le lire. Du coup, je le laisse quand même sur ma table de chevet parce que j'ai envie de le lire et que, parce que j'adore Yves Simon, j'adore son écriture. Mais en fait, j'adore son écriture dans les chansons. Et je crois que j'ai beaucoup plus de mal à accrocher en littérature parce que je me perds, en fait. J'arrive pas à rentrer dedans, c'est un peu trop poétique.
Peut-être que la période dans laquelle tu la lis actuellement fait que c'est peut-être
c'est
un peu de mal aussi à
ouais, possible, parce
l'esprit
que
est peut-être un peu verrouillé.
Ouais, il y a des livres qu'on n'arrive pas à lire dans certaines périodes et peut-être que si je le reprends l'été prochain, il me parlera plus.
On se donne rendez-vous l'été prochain pour savoir
je vais
si.
Sur ma table de chevet.
Ça marche. Qu'est-ce que tu lis d'autre ? C'est quoi si tu devais voir la question bateau, mais un seul livre à retenir sur l'ensemble de ce que tu as pu lire ou qui te.
Bonjour tristesse.
D'accord.
François Sagan.
Ok.
Ouais.
Celui-là t'a marqué.
Celui-là m'a marqué parce que je lis vraiment depuis pas longtemps. En fait, je lis en prenant du plaisir à lire depuis pas longtemps. Mmh. J'ai 28 ans et j'ai fait un bac L littéraire et donc j'étais obligée de lire des livres à l'école et ça me plaisait pas forcément. Enfin, je le faisais toujours à contre-cœur. Même si, de toute façon, j'ai fait littérature parce que j'étais nulle en maths, donc c'était ma seule option, quoi.
On est tous passés par là, j'ai l'impression.
Mais voilà, de toute façon, tout ce qui est scolaire m'a toujours rebuté un peu. Donc forcément, on me disait « lis tel livre » et j'avais pas envie de le lire, alors qu'au final, j'aurais pu prendre du plaisir à lire certains livres. Il y en a même que j'ai aimé un peu, quand même, à l'école. Mais c'est surtout après que j'ai commencé à bien aimer lire, et en fait j'ai bien aimé lire à partir du moment où j'ai lu des livres qui impliquaient une production artistique liée, parce que j'ai commencé donc à lire Bonjour Tristesse de Françoise Sagan parce que je faisais la musique d'un spectacle qui s'appelait Toxique, et qui était un spectacle sur Françoise Sagan depuis un journal intime de Françoise Sagan. Et donc, pour ce spectacle, j'ai lu toute la biographie de... Enfin, la bibliographie.
Comment on dit ? Oui, biblio, ouais.
Ouais. Discographie, bibliographie. De Françoise Sagan. Et en fait, ça m'a énormément intéressée. La personne, Françoise Sagan, m'intéressait. Ce qu'elle écrivait m'intéressait énormément. Et bon, je ne sais pas si j'ai tout lu, je pense que c'est beaucoup, mais j'en ai lu vraiment beaucoup. Et tous ces livres m'ont plu et je me suis plongée dedans et... Bonjour Tristesse, j'ai dû le lire en une fois, quoi. Mmh. Et pour moi, c'était un truc de fou de lire un livre en une fois.
Une révélation presque.
Ah ouais, parce que je pouvais plus m'arrêter, alors qu'avant c'était genre bon, ce soir je vais lire un chapitre, allez, et puis et là vraiment j'ai ouvert le livre et du début à la fin je me suis pas arrêtée, je l'ai lu d'une traite quoi. Et c'est comme ça que j'ai découvert le plaisir de lire avec Françoise Sagan et aussi avec un autre auteur que j'aimais beaucoup qui s'appelle Jean-Bernard Pouy, qui écrit des policiers, romans policiers. Et c'est pareil, c'est aussi dans le contexte d'un projet artistique parce que c'était dans le contexte d'une chanson que je devais écrire depuis un texte de Jean-Bernard Pouy. Donc pour le coup, c'était pour un petit festival au Havre qui s'appelle Les Polars à la plage, Polaroid Rock. Et donc l'exercice c'était ça, on nous donnait un texte d'un auteur de polar et il fallait faire une chanson sur ce texte. Et nous, avec mon groupe à l'époque qui s'appelait The Tinunes, on avait eu ce texte de Jean-Bernard Pouy et du coup bah, je m'étais intéressée à l'auteur, j'avais eu envie de lire ce qu'il faisait. Et pareil, j'avais lu L'homme à l'oreille croquée, je crois que c'est le titre. Et pareil, je l'avais lu d'un coup une nuit dans ma maison de campagne où j'enregistre mes chansons. Et après, j'avais peur. J'étais toute seule dans cette maison-là. Et j'avais peur parce que c'était un roman policier, donc c'était un peu flippant. Mais c'était hyper, hyper excitant aussi de prendre autant de plaisir à lire un livre, alors qu'avant, pour moi, c'était juste des pages. Puis c'était chiant, quoi. C'était un exercice chiant. Et c'est devenu comme ça hyper intéressant. Et là, ce qui est marrant, c'est que je suis en train de lire un livre de Jean-Bernard Pouy, justement, qui s'appelle La Récup, que j'ai emprunté à la bibliothèque. Némeyer au Havre. Alors que j'avais pas lu de livre de Jean-Bernard Pouy depuis super longtemps. Et en fait, il se trouve que je lis ce livre en ce moment parce que j'ai un contact Facebook qui a publié un extrait de ce livre qui m'a marqué. Parce que dans ce livre, il fait référence à un meurtre au Bataclan pendant un concert de Eagles of Death Metal. Donc c'est quand même exactement la situation des attentats du Bataclan. Et donc ça m'a marqué et j'ai eu envie de le lire, donc je l'ai emprunté. Là, je suis en train de... C'est ça ma lecture du moment.
Actuelle, d'accord. Okay. Et ça t'inspire aussi en termes de musique, en dehors du fait de devoir lire parfois des choses qui font partie de projets annexes. Est-ce qu'il y a des choses qui, dans l'ensemble de tes lectures, en dehors aussi de Françoise Sagan, peut-être que Françoise Sagan t'a inspiré des choses?
Alors, je pense que tout ce qu'on lit nous inspire quelque part, parce qu'on vit des histoires à travers ces lectures. Je sais pas si, enfin, en tout cas, il y a pas récemment des chansons que j'ai écrites en me disant tiens, en pensant à un livre que j'avais lu. Mais quand j'étais plus jeune, j'ai écrit une chanson justement qui parlait d'un livre précisément. Justement, c'était un livre que j'avais lu à l'école en cours d'anglais, mais c'était mon premier livre que je lisais en anglais. Donc pour moi, c'était encore un autre. C'était hyper intéressant de réussir à lire dans une autre langue. J'avais adoré ça. Et ce livre, c'était A Lesson Before Dying, de Ernest G. Gaines, je crois. Et j'avais adoré, c'était un livre vraiment prenant et ça m'avait fait pleurer, enfin ça m'avait vraiment fait des émotions, quoi. Et du coup, j'avais eu besoin de le retranscrire dans une chanson. Donc oui, ça, je pense que c'est inspirant, la lecture, c'est forcément... on est forcément inspiré si le livre nous a plu ou s'il nous a emporté quelque part...
Et alors, c'est majoritairement des romans, a priori.
Ouais.
Parce que j'ai pu apercevoir vite fait, juste avant la chanson que tu nous as interprétée tout à l'heure, tu as été chercher deux, trois petits trucs. On a coupé un peu les micros, on était en off. Et j'ai regardé, donc là sur la table, sur ta table basse, il y a un Amélie Nothomb qui s'appelle Acide sulfurique. Et il y en a un autre qui est apparent juste derrière la petite lumière qui est posée dans l'étagère, là. Et le rapport avec juste encore un en dessous, donc c'est la deuxième égérie, on va dire, la deuxième après Sagan, c'est Nothomb.
C'est ça, exactement. En fait, dans ma bibliothèque qu'on voit en face de nous là, j'ai à peu près toute la bibliographie de Françoise Sagan et d'Amélie Nothomb.
D'accord.
Et c'est plus récent du coup, Amélie Nothomb. Je sais pas si on dit Nothomb ou Nothomb.
Je pense que les deux se disent.
Ok. Donc ouais, c'est plus récemment que j'ai découvert et pour le coup c'est ma grand-mère qui m'a fait découvrir Amélie Nothomb, ou ma mère, peut-être ma mère avec l'effet papillon, Et je crois que c'est ma mère, mais avec ma grand-mère, on partage aussi cette passion d'Amélie Nothomb. Donc dès qu'il y en a un qui sort, elle m'appelle et puis elle me dit « Est-ce que tu l'as ? Est-ce que tu as été à la Galerne ?» C'est une librairie au Havre. Et là, c'est la première fois que je lis le nouveau Nothomb avant ma grand-mère, quoi.
Ah.
Et là, je reviens de chez elle et c'est pour ça qu'il y a ce deuxième livre, Acide sulfurique, ouais, que j'ai pas encore lu et qu'elle vient de me prêter.
D'accord, ok. Voilà, ça donne un petit aperçu en fait de l'univers aussi qui t'entoure en termes de lettres. Ça inspire aussi dans les textes, dans la rédaction des textes, même si les textes sont en anglais. Est-ce que ça inspire aussi parce que on peut avoir des impressions musicales, on peut même avoir une trame sonore qui se dessine quand on lit. Mais est-ce que ça influence aussi la rédaction encore une fois, même si celle que tu fais est en anglais?
Alors c'est possible, mais je pense que là c'est beaucoup plus inconscient parce que c'est pas quelque chose de auquel je pense quand j'écris en tout cas.
Mmh. Oui, c'est pas forcément mécanique.
Non.
Alors quand t'as ouvert ton petit placard aussi, j'ai aperçu des petites des petites choses incongrues. Je me suis dit tiens, elle me parle de Björk, elle me parle d'Yves Simon, elle me parle de ses vinyles, etc. Là dans la boîte bleue, je vois le 13th Possession qui est terrible aussi, cet album là. Et puis il y a des petits secrets, des petites choses telles un 45 tours de Titi et Gros Minet. Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Ouais. Et des petits chapeaux pointus, des petits trucs rigolos. Donc, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ces friandises?
Ouais, parce qu'il y a même un paquet de cigarettes en chocolat, donc on peut parler de friandises. Le petit 45 tours de Titi et Gros Minet, c'est un copain qui me l'a offert cette année, pendant une interview justement sur Westrack, dans l'émission Matin Câlin.
On salue, Westrack, Radio Ami.
Et ouais, je sais pas, j'ai dû lui inspirer ce cadeau parce que voilà, il me l'a offert, il m'a dit tiens, j'ai pensé à toi en trouvant ce vinyle. Donc ça m'a fait très plaisir et oui, je l'ai mis en évidence dans mon meuble à vinyle parce que je trouve que la pochette est vraiment super.
Ça me disait, il y a trop un ça ici.
Oh, j'ai une idée, viens
danser. Non, pas ça. Mimi, refais tes valises.
Alors, tu nous parlais des bouquins, tu nous parlais que de quand tu étais enfant, quand tu allais à l'école, bon, le fait d'avoir un bouquin imposé, c'était pas franchement la joie pour se mettre dans la lecture de ce fameux bouquin. Est-ce que ça marche comme ça pour tout? Est-ce que c'est encore quelque chose qui reste? Est-ce que il est difficile d'imposer des choses à Juliette?
Oui.
C'est pour ça que tu fais les choses un peu toute seule et que tu t'entoures de gens pour t'aider dans tes démarches. C'est toi qui commandes.
Oui, un peu. Ouais. Un peu. J'ai un peu un côté contrôle freak. Contrôle freak.
Ok. Oui, avec l'accent, ça passe. On comprend mieux.
C'est vrai que ouais, j'ai toujours besoin de
maîtriser.
De maîtriser un peu la situation. Et dans la musique particulièrement parce que c'est mon activité principale. Mais après, oui et non, parce que enfin, j'arrive quand même à laisser la main aux gens qui m'entourent.
Oui, t'arrives à entendre certains avis,
voilà,
à changer éventuellement de fusil d'épaule peut-être.
Alors pas totalement, mais en tout cas, j'arrive à entendre ce qu'on me dit et si c'est quelqu'un en qui j'ai confiance. Bien sûr que je prends en compte ce qu'on me dit, mais c'est clair que c'est compliqué. Mais je pense qu'avec le temps, j'arrive de mieux en mieux à entendre les conseils qu'on me donne et à les suivre. Je pense que mon éditeur pourrait le dire. Enfin, j'espère. Mais c'est vrai qu'au début, avec lui, par exemple, on se disputait tout le temps. Maintenant, moins, parce que je pense que chacun a compris le fonctionnement de l'autre aussi. Avec Gaëtan Le Calvez qui est producteur musical de Adulthood et avec qui j'ai beaucoup travaillé depuis que j'ai commencé la musique en fait. Ça a toujours été compliqué, très confrontation compliquée parce que lui aussi en fait il sait très bien ce qu'il veut, il sait vers où il veut aller et quand je lui fais écouter mes maquettes il a déjà une idée en tête quoi. Donc on a toujours une petite confrontation avant d'aller en studio. Et puis en studio, ça se passe très bien et on est très contents du résultat. Et on arrive à s'accorder en écoutant un peu chacun ce que l'autre a à dire.
Elle était comment, Juliette, quand elle était petite fille ? Parlez-moi de votre enfance.
En plus, on est sur un canapé.
Eh oui. Je vais faire le chapier de showcase.
Ben, très introvertie. Ouais, j'étais très très timide. J'avais pas beaucoup d'amis. Après, j'étais très timide en fait avec les gens que je connaissais pas, mais dans mon entourage, j'étais un clown, un petit clown quoi. Et d'ailleurs, ça se voit sur mon clip de Winter, la première chanson qui est sortie l'hiver dernier. On a tourné un clip en VHS en fait avec deux amis, Laura Boistel et Benjamin Brochek. Et donc on a tourné en VHS et on a mis de la VHS de quand j'étais petite. Et dans ces VHS, on a beaucoup ri en regardant les rushs, la VHS en entier, qui était assez longue en plus. C'était un voisin, ami de mes grands-parents, qui venait avec sa VHS et qui filmait toutes nos conneries avec ma sœur. Et je me rends compte en regardant cette vidéo que je faisais n'importe quoi. Et puis je faisais tout pour qu'on me regarde, quoi. Mais de manière drôle, enfin, c'était plus petit clown, voilà. Et donc j'étais à la fois très timide et quand j'étais en confiance, je faisais le clown.
Peut-être une façade aussi pour cacher.
Ouais.
Souvent, ouais. Hein, c'est ce qu'on retient des clowns, la façade du maquillage, mais derrière. Le clown peut être triste ou réservé. Ou,
totalement.
Etc. Il est comment le clown aujourd'hui ?
Oula, alors je crois qu'il est toujours présent quand même.
Comment il a évolué ?
Bah, c'est compliqué, c'est un peu le sujet de adulthood justement, puisque...
C'est pour ça que j'amène le truc, parce que voilà, l'adulthood, c'est le regard qu'on porte une fois qu'on est arrivé à l'âge adulte, c'est un peu le bilan de ce qu'on a vécu étant enfant, et un petit peu aussi toutes les expériences bonnes ou mauvaises qui nous ont permis de grandir. Je me trompe ou...
Non, c'est carrément une bonne traduction. Et c'est vrai que l'adulte qu'on est aujourd'hui, ce qui est compliqué, ce qui est complexe, c'est qu'il comporte tout ce qu'on a vécu jusqu'ici, en fait. Et donc forcément, j'ai toujours un petit clown en moi, mais peut-être un peu moins léger, quoi. Parce que forcément, quand on est petit, on est tellement insouciant, tellement pas de... Enfin, ouais, c'est plus simple, quoi. Après, je pense que déjà petite, je me faisais des trucs compliqués dans ma tête. C'est pour ça que je fais des chansons, je crois. Mais ouais, je pense qu'en fait, l'enfant que j'étais est toujours quand même hyper présent en moi. Et c'est pour ça que j'ai eu besoin d'écrire ces chansons aussi. C'est parce que je suis dans une phase où voilà, j'ai 28 ans, je suis quand même censée être un peu une adulte depuis quand même quelques années. Et
mais ce serait bien de grandir un petit peu, mademoiselle.
Ouais, voilà. C'est ça, il s'agirait de grandir. Et je me rends compte que j'ai pas beaucoup changé, que je suis forcément j'ai vécu beaucoup d'expériences bonnes ou mauvaises qui font la personne que je suis aujourd'hui, mais j'ai toujours une part très très enfantine et très voire adolescente d'ailleurs qui traîne et qui fait que je me sens pas totalement adulte.
Eh ben, on va se délecter de cette version de Adulthood spécialement pour Showcase aujourd'hui. On t'écoute et on se retrouve bien évidemment juste après.
There's a feeling in my stomach, and it came again last night. While people dance and feel alright, my heart is beating like it could cry. Will I ever be a woman? Will I ever get old? people all around seem common. Will I ever be bold? There's a feeling in my throat, and it came again last night. While people get pregnant and bite, my head is spinning like a boat. Will I ever be a woman? Will I ever get old? People all around seem common. Will I ever be bold? A woman, will I ever get old? People all around seem common. Will I ever be bold?
On parle de composition, d'inspiration, de nourriture de l'esprit. Comment on fait quand on est une artiste qui gère, entre guillemets, sa carrière toute seule, parce qu'elle est obligée de le faire toute seule, parce qu'elle n'a pas, que ce soit les moyens ou le temps, ou en tout cas l'entourage nécessaire pour gérer la com derrière.
Alors moi, j'ai la chance quand même d'avoir un éditeur qui me soutient financièrement, qui d'ailleurs joue plus le rôle d'un producteur actuellement.
Dont on peut citer le nom, encore une fois.
Melmax Music, voilà, il s'appelle Philippe Daniel. Et il me soutient beaucoup dans il m'a beaucoup soutenu dans la création d'Adulthood et dans mes anciens projets aussi, donc il est là depuis un peu le début, et donc ça c'est déjà très important, c'est-à-dire que ça me permet de réaliser les choses que je fais, que j'ai envie de faire, et donc d'avoir sorti Adulthood en physique notamment et sur les plateformes, de l'avoir enregistré. Et ensuite, par contre, c'est clair que tout ce qui est communication, donc sur les réseaux sociaux, etc., je m'en occupe. Et c'est quelque chose que j'aime bien faire, mais c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Et qui prend du temps tous les jours, en fait. C'est tous les jours, je suis sur mon ordinateur en train de programmer des posts Facebook pour les deux semaines à venir ou sur Instagram. À réfléchir aux stories, aux posts que je vais faire, etc. Et à gérer tous les mails.
Ouais, mais du coup, ça empiète sur le temps de cerveau disponible, entre guillemets, pour tout ce qui est composition pure.
C'est clair.
Et trouvage d'inspiration.
Oui, oui, oui. C'est certain. Parce qu'en fait, d'une part, je pense que pour. Moi, pour avoir de l'inspiration pour composer, j'ai besoin d'avoir vraiment le temps. C'est-à-dire pas une après-midi, quoi. J'ai besoin d'avoir de me dire, bah là, cette semaine, je vais composer des chansons. Et en fait, j'ai quasiment jamais l'occasion de me dire ça. Ou alors, il faut vraiment que je parte, que j'aille ailleurs et que je m'enlève à mon emploi du temps très strict, que je m'impose moi, hein, d'ailleurs. Je suis pas du tout obligée de faire ça. Enfin, c'est,
Et dans un sens, si, quand même, puisque s'il n'y avait pas tout ce travail-là, on n'entendrait pas parler sur les réseaux où la com, elle est
c'est important,
prépondérante, surtout dans le monde dans lequel on vit actuellement. Si on n'est pas présente sur les réseaux, si on manque un jour de présence... On devient quasiment, entre guillemets, du jour au lendemain inexistant.
Ouais, c'est clair. Bah, surtout moi, au stade où je suis, j'ai pas le choix. Il faut que je sois présente sur les réseaux, que je fasse de la communication. Après, c'est une partie que j'aime bien aussi, parce que ça m'intéresse tout ce qui est... Enfin voilà, la partie penser aussi au clip, penser à qu'est-ce qu'on va faire comme clip, quelle idée, aux photos, qu'est-ce qu'on va faire comme photo, quelle tenue, pourquoi, enfin tout l'univers en fait qui entoure les chansons, qui illustre les chansons et ma musique, c'est aussi une partie qui m'intéresse beaucoup et j'ai envie d'y prendre part, donc... C'est aussi moi qui me donne aussi beaucoup là-dedans parce que ça m'intéresse. Mais c'est clair que là, du coup, avec la sortie d'Adulthood, depuis le mois d'avril, j'ai pas composé une seule chanson. Mmh. Parce que je suis à fond dans la promo de cet album-là qui est sorti et pour lequel j'ai beaucoup travaillé justement autour sur toutes ces choses qui sont du domaine du visuel plutôt. Et donc effectivement, oui, ça empiète beaucoup sur le temps de composition et d'inspiration. Et parfois, je me dis qu'il faudrait peut-être que je prenne un peu de recul par rapport à tout ça pour essayer de retrouver, justement, de lire, d'aller au cinéma, de prendre du temps pour soi et juste pour retrouver un peu d'inspiration et de temps de composition.
Mmh. Alors, il y a deux points. On se rend compte à travers de ce que tu dis que Juliette, c'est quelqu'un de finalement très exigeant. Puisque tu nous parles du choix d'une chemise pour une photo, tu nous parles même éventuellement d'une typographie vraiment particulière ou d'une couleur ou de choses comme ça. Le visuel est très très important à tes yeux, autant que l'exigence que tu peux avoir dans l'arrangement d'un morceau ou même ne serait-ce qu'un instrument qui va être mis en avant ou pas.
Ouais. Chaque détail compte en fait. Enfin, après, le public va pas forcément le percevoir, mais si inconsciemment, ça fait partie du.
Mais ça joue.
Ça joue, ouais. Puis pour moi, c'est important. Effectivement, le costume de marin que j'ai, c'est une costumière qui me l'a fait sur la pochette, et c'est un costume qui fait référence à un photomaton que j'ai de moi petite. Donc voilà, tout ça c'est lié, rien n'est fait au hasard, et pour parler de couleurs, de typographie, etc., la pochette du format CD, jusqu'au dernier moment on était encore en train de se demander si on mettait le titre Adulthood en bleu marine ou en orange sur la tranche, quoi. Tu vois, donc c'est vraiment du détail, mais c'est important.
Et j'ai l'impression qu'il y a un regret de l'enfance. Parce que tu nous dis, ce costume-là sur la pochette de mon EP fait référence à un photomaton de moi. On a tourné un clip il y a quelques années qui s'appelle Winter avec des VHS de moi quand j'étais petite et que je rigolais et que je faisais la clown. Même dans ton mobilier, dans l'ensemble, il y a un regard sur le passé. On sent une certaine nostalgie de l'enfance et du passé. Ouais. C'était mieux avant.
C'est pas un regret.
Qu'est-ce qui était mieux avant pour que tu sois si attaché à ça?
C'est pas un regret, c'est de la nostalgie. Ouais. Je sais pas si c'était mieux avant, mais je pense que j'aime pas dire ça en plus.
Non,
c'est
mais j'ai fait exprès pour te.
Non, c'est plus ouais, c'est de la nostalgie, mais la nostalgie c'est pas forcément négatif. C'est un sentiment qu'on a tous quelque part, je pense. On a tous un regard vers le passé ou vers le futur d'ailleurs. C'est Blaise Pascal qui disait ça quand on parlait de littérature tout à l'heure. J'ai aussi lu Blaise Pascal quand j'étais à l'école, et qui est plutôt de l'ordre de la philosophie. Et c'est un des rares livres de philosophie aussi qui m'a plu quand j'étais au lycée. Et il parlait de ça justement, de l'humain qui est condamné à toujours regarder vers le passé ou vers le futur, en fait, et qui n'est jamais en train de vivre au présent. Cette condition-là, en fait, de la condition humaine, je pense qu'elle est beaucoup dans le passé et le présent, dans ce regard qu'on a. Et moi, effectivement, enfin, en tout cas, ces chansons-là de l'EP Adulthood parlent beaucoup de ça. Mais c'est plutôt aussi par rapport à ça, c'est par rapport à ce que j'ai mis dans mes chansons que j'avais envie que le visuel aussi aille avec tout ça. Et ouais, il y a une certaine nostalgie, je pense, de l'insouciance de l'enfance par rapport à tout ce qu'on peut se prendre dans la gueule en grandissant. Après, même petit, hein, on s'en prend plein la gueule aussi. Mais
ça glisse plus.
Voilà, et puis après, c'est des choses qui ressortent quand on est adulte, quoi. Justement.
Et alors, dans 20 ans, elle sera quoi, Juliette ?
C'est une bonne question. Bah, j'espère qu'elle aura trouvé un tourneur, qu'elle aura...
Ça, c'est le concret, concret, là.
On peut pas faire non, plus, dans 20 ans, franchement, je sais pas du tout, en fait. C'est en ça aussi que j'ai du mal à me projeter en tant qu'adulte, c'est parce que je sais pas du tout ce que je serai dans 20 ans. Je sais pas si... Je sais pas si je serai mariée avec des enfants ou si je serai toujours seule sans enfants dans mon appart. Je sais pas. J'en ai aucune idée et je pense que c'est bien, en fait, de pas forcément se projeter trop dans le futur.
Et autant, comme disait Blaise Pascal, au final, autant vivre l'instant présent et
voilà.
Pas trop.
Même si c'est difficile à faire, mais parce qu'on est toujours forcément en train de se projeter dans tout ce qu'on fait. Et moi, je pense que là où je me projette le plus, c'est dans la musique et c'est. C'est ça que je vois le plus dans mon futur quand je m'imagine. C'est en tout cas ce que j'espère le plus, c'est de continuer à faire de la musique et de continuer d'arriver à en vivre et continuer à faire des disques et pas perdre la motivation de le faire et voilà d'être. C'est pour ça que je dis avoir trouvé un tourneur, parce que c'est important en fait, parce que je pense que si je continue de jouer et de faire des concerts, c'est ça moi qui me... C'est ça un peu le carburant qui me donne envie de continuer, c'est de jouer devant des gens et de partager la musique que je fais.
Mmh. Alors l'inspiration, elle vient, comme on disait, une fois qu'on a fini la com, une fois qu'on a fini tout ce travail de double casquette finalement. Tu disais tout à l'heure, je pars dans ma maison de campagne ou je pars pour voir autre chose, je lis des livres, je vais au cinéma. Qu'est-ce que tu regardes au cinéma ? Qu'est-ce que tu vas voir ? C'est quoi ton film ?
Alors déjà, c'est intéressant ce que tu viens de dire parce que effectivement, je trouve que partir... que le voyage dans tous les sens du terme est important pour l'inspiration et la composition et qu'on peut voyager autant en réellement physiquement qu'en lisant un livre ou en allant au cinéma. Et récemment j'ai vu pas mal de films, je me suis beaucoup évadée par le cinéma. Et qu'est-ce que je regarde comme film? Et ben là, le dernier que j'ai été voir, c'est le dernier Woody Allen. Un jour de pluie à New York avec Timothée Chalamet, qui est un acteur que j'adore, et c'était une belle balade. Mais voilà, c'était juste une balade, ça m'a pas transcendé d'émotion, mais c'était agréable, ça m'a fait me balader, quoi. Et sinon dernièrement j'ai aussi loué un DVD qui est sur ma table là.
Tu loues encore des DVD?
Ouais.
Tu vis vraiment dans le passé?
Enfin, non, pas louer, emprunter à la bibliothèque.
Ah, d'accord.
Parce que les vidéoclubs, ça n'existe plus.
Et non.
Mais oui, à la médiathèque, du coup, Oscar Niemeyer, j'ai donc emprunté le livre de Jean-Bernard Puy. Et en fait, j'ai emprunté ce film qui s'appelle Mort à Venise, de Visconti.
D'accord.
Mort à Venise. Et en fait, je l'ai emprunté parce que c'est une histoire un peu marrante. C'est. Je sais pas si tu connais Gala, la chanteuse Gala.
Oui, d'accord, ok.
Qui a fait Freed from Desire.
Ok.
Et donc, années 90, idole totale pour moi dans les années 90. On faisait des chorégraphies sur sa chanson avec son tube, avec ma sœur. Et
c'est pas du tout ce qu'on s'imagine.
Ah ouais.
Quand on t'écoute.
Et pourtant si. Et j'ai même fait une reprise avec une amie de Freed from Desire de Gala. Oui, j'étais fan de Gala. Après j'avais 8 ans, hein, je pense.
Oui.
Et récemment, je suis allée avec cette même amie avec laquelle on a fait cette reprise, qui est Pauline du projet Denise.
Oui.
Pauline Denise.
D'accord.
On est allé ensemble, je l'ai invitée pour son anniversaire, voir un match de foot de la Coupe du Monde féminine de foot. Donc on est allé au stade Océane au Havre. Et dans le stade, avant que le match commence, on entend cette chanson qu'on avait reprise ensemble. À fond, quoi. À fond dans le stade. Nanana. ça nous a fait rire. Et moi, j'ai filmé le stade avec la chanson à fond. J'ai fait une story Instagram et j'ai tagué Gala. Et en fait, elle m'a répondu à ma story et elle m'a parlé, quoi. Mon idole des années 90.
Wow.
Elle m'a parlé sur Instagram. Elle m'a dit « C'est super, ça m'intéresse parce que je trouve ça cool que ma musique soit diffusée dans un stade pour la Coupe du Monde féminine de foot, quoi. Donc elle m'a dit « Est-ce que tu peux m'envoyer la vidéo pour que je la mette sur je sais plus quel réseau ?» Et donc je lui ai envoyé et on a commencé à discuter un peu. Je lui ai dit que pour moi c'était marrant qu'elle me parle alors que quand j'avais 8 ans, jamais de ma vie, je me serais dit Gala va me parler un jour. Quoi. Et maintenant en fait avec les réseaux, surtout avec Instagram, on peut beaucoup plus parler à des artistes comme Gala. et donc voilà, et ensuite donc elle a aussi suivi mon compte Instagram, je crois. Et sur ma photo justement de la pochette sur laquelle j'ai une tenue de marin, elle a commenté et son commentaire c'était Tadzio.
D'accord.
Alors moi je me suis dit elle est italienne je crois en plus Gala donc j'ai été chercher traduction Tadzio et puis je trouve rien. Puis en fait je tape Tadzio juste sur le moteur de recherche et je vois Mort à Venise Tadzio. En fait c'est un personnage du film Mort à Venise de Visconti. Et du coup, je me suis dit, faut que je regarde ce film pour comprendre pourquoi elle a commenté Tadzio. Et bon, rien qu'en voyant, en tapant Tadzio image, en fait, on tombe sur le personnage qui est un jeune homme magnifique, blond, très très féminin, qui ressemble vraiment beaucoup à une femme. Moi, je pensais que c'était une femme, et dans le film, j'ai compris que c'était un garçon, jeune garçon. Et qui a une tenue de marin comme ça avec un col marin carré dans le dos et tout et du coup effectivement qui aurait pu être une très bonne référence si j'avais vu avant et qui et du coup qui m'a un peu interpellée parce que j'ai trouvé l'image vraiment belle et donc j'ai été à la médiathèque pour louer pour emprunter ce film et finalement je me suis ennuyée.
Et moi j'allais rebondir en disant eh bien voyez le film comme ça vous aurez une idée de mais bon
je sais pas si ça fait partie de la nouvelle vague ou pas ce film mais ça fait très contemplatif
Ouais. Mais a priori pour toi ça pas le match a pas été présent.
Non, j'ai pas été transcendée. J'ai trouvé ça que les images étaient belles. Voilà.
Ok, merci Gala donc pour la référence.
Merci du conseil.
Ouais. Deux films, un qui est totalement culte à tes yeux, enfin celui que tu pourrais regarder, bah, un peu comme tu parlais de l'album de Björk tout à l'heure ou de Françoise Sagan. Si tu devais retenir un film en particulier, lequel serait-il ?
Je vais citer Moonrise Kingdom de Wes Anderson, notamment parce que ça a été une énorme référence pour mon dernier clip qui est sorti qui s'appelle Maybe If I Died. Et forcément les gens qui ont vu ce film verront tout de suite la référence puisqu'il y a un plan sur un phare en haut d'un phare avec la mer en fond et il y a ce plan magnifique dans Moonrise Kingdom d'une petite fille avec ses jumelles de la petite fille qui est le personnage principal avec le petit garçon qui est magnifique et ce film est esthétiquement magnifique. Encore justement un peu années 60 d'ailleurs dans l'esthétique.
Et encore un rapport à l'enfance. Ouais. On reste toujours dans les mêmes
Moonrise Kingdom, c'est
choses qui te touchent.
Ouais, c'est une histoire de deux enfants justement qui vivent leur petite histoire d'amour. Et en fait, c'est pas une petite histoire d'amour justement, c'est une histoire d'amour quoi, mais d'enfants. Et ils font tout comme un vrai couple adulte et tout, et ils sont.
Alors ça, c'est le film de référence. Et puis, y a-t-il un nanar?
Ah.
Un truc, mais vraiment un petit peu le truc dont on a un peu honte, mais en même temps c'est tellement jouissif quand on le regarde, on prend plaisir à le voir.
Bah, il y a aucun film dont j'ai honte que je prends plaisir à voir, parce que franchement les films pas bien, ça me met un peu hors de moi. Enfin, j'ai vraiment du mal à regarder des mauvais films. Non, dans les trucs vraiment drôles et tout, il y a Les Bronzés font du ski, quoi, dans les trucs très. Mais bon, Patrice Lecomte, c'est quand même un super réalisateur. Donc, c'est loin d'être un nanar, mais dans les trucs un peu rigolos, français, que tout le monde.
Après, c'est pas obligé que ce soit un truc français. Il y a des nanars américains aussi. Il y a tout le monde entier a fait des nanars. On est même. couvert de nanars. Il y a énormément de films qui ne sont pas.
Il y aurait peut-être plus des films très, très romantiques.
À l'eau de rose, un peu.
Ouais, voilà, très à l'eau de rose et que j'adore, comme Love Actually.
Lopez.
Ouais. Ouais, je crois que c'est Love Actually. Où ça se passe à Noël et tout, là, je sais plus lequel c'est.
Ah oui, puis il y a un film de Noël en plus. L'amour à Noël, c'est un truc...
Ouais, voilà.
On se doute comment ça finit. Quoi.
Ça finit bien.
Ah, toujours. Ah oui.
Ouais.
Ils se re-aiment à la fin. Ouais. Allez, on a parlé de tout ce qui pouvait t'inspirer en général, la nourriture de l'esprit, mais la nourriture en elle-même, comme on dit souvent, on est ce qu'on mange. C'est quoi qui fait Juliette dans son assiette?
Alors, déjà, j'aime bien cuisiner, donc j'achète souvent des produits bruts, enfin pour cuisiner moi-même. Et je suis végétarienne, donc je mange pas du tout de viande depuis plus de 2 ans, je crois maintenant. Je mange encore un peu de poisson, mais très rarement. Puis j'habite au bord de la mer, c'est ma raison de manger du poisson. Et donc voilà, j'ai arrêté de manger de la viande pour plein de raisons. Après, c'est un long débat que j'ai avec beaucoup de gens, puisque forcément à chaque repas. C'est la question qu'on pose, en tout cas pour les gens pour qui ça peut encore être étonnant ou pour qui ça pose question. C'est un débat qui revient beaucoup. Après, chacun a ses raisons de l'être ou pas. Et je pense que chacun fait bien ce qu'il veut. Mais voilà, moi, je suis plus fruits et légumes et j'aime bien. Pour moi, en fait, c'est important aussi par rapport au fait de chanter, etc. Parce que je prends beaucoup soin aussi de mon corps par rapport à ça, de mes cordes vocales principalement. Mmh. Et du coup, il y a ce que je mange, mais il y a aussi ce que je bois. Bon, on a pu comprendre que je buvais des bières, certes, mais je bois aussi beaucoup de thé, de tisane, etc. Et notamment, la potion magique, c'est du thym en vrac et de l'érysimum, qui est une plante aussi, comme le thym qu'on peut trouver en vrac et faire en infusion. Et ces deux plantes-là, c'est ma potion magique de concert, quoi. Si je pars la semaine prochaine, par exemple, je pars lundi, la première chose que je vais faire, c'est me faire un thermos de thym érysimum avec un peu de miel.
Mmh.
Et je vais me faire ça tous les jours. Et pour moi, c'est ça c'est plus d'une boisson que de la nourriture, mais c'est vraiment l'élément important. Voilà.
C'est l'élément clé qui fait que tu tiens le coup sur...
Voilà. Si je dois jouer plusieurs.
Tiens la distance,
suite,
quoi. Ouais. Alors, le petit plat doudou, celui qui fait que... Là, vraiment, tu vas rentrer, par exemple, à la fin de ta tournée de promo. T'as envie de te faire plaisir au palais. Qu'est-ce que tu vas te faire?
Des pâtes.
Des pâtes.
Ouais, des pâtes.
Ça fait rêver. Hein.
Des coquillettes au beurre. Moi, encore en rapport avec l'enfance, mais mon plat un peu réconfort, c'est les coquillettes au beurre.
Ok.
Alors maintenant, j'essaie de manger moins de beurre parce que je suis pas végane, mais j'essaie aussi de retirer le plus possible les produits laitiers de mon alimentation. Aussi par rapport à tout ce qui est ORL d'ailleurs, parce que tous les médecins m'ont dit que les produits laitiers, surtout de vache, étaient mauvais pour le système ORL et pour les défenses immunitaires. Et moi qui suis beaucoup trop souvent enrhumée pour une chanteuse, ça me permet quand même de faire plus attention. Donc voilà. Mais les pâtes au beurre, quand même avec du vrai beurre, c'est bon.
Bah, y a rien de meilleur, paraît-il. Si d'aventure tu as des amis à dîner ce soir, qu'est-ce que là t'as okay, je sais même pas quelle heure il est là, mais à l'improviste, on t'envoie un petit texto. Ouais, on vient manger chez toi et tout. Allez, vas-y, machin.
Je vais sur le site de la cuisine de Jean-Philippe.
Mmh.
Alors, si j'ai pas trop de temps, je vais faire avec ce que j'ai dans mon frigo et souvent. Ça va être soit du riz ou des pâtes. Enfin, je vais prendre une base comme ça, riz ou pâtes ou autre. Et avec, je vais cuisiner des légumes, avec souvent de la crème de soja. Et déjà, ça fait un truc très simple qui peut être très bon quand j'ai pas beaucoup de temps. Et sinon, donc je vais sur le site ou dans mon livre de la cuisine de Jean-Philippe, qui est un Canadien, qui élabore des recettes véganes, pour le coup, que moi, des fois, je végétarianise. C'est-à-dire que si, par exemple, il met du faux fromage ou moi j'en mets du vrai, voilà, des fois. Je respecte pas toujours totalement sa recette, mais j'essaye la plupart du temps. Et il a des super recettes, pas compliquées à faire, Et donc, par exemple, là, je pense que je ferai un dalle de lentilles aux choux-fleurs et aux pommes de terre avec un peu de piment, pas trop, parce que j'aime pas quand c'est trop épicé. Et voilà, par exemple, ça, c'est un dalle de lentilles, c'est un bon plat qui se fait assez facilement et qui est bon.
Et convivial.
Ouais.
Ok. je pense qu'on a fait pas mal le tour du personnage que tu incarnes, Juliette, ou White Velvet, en tout cas pour ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup pour t'être révélé un peu plus à nous.
Merci à toi pour toutes ces questions.
D'avoir joué le jeu, et puis merci pour ces versions aussi que tu nous auras offertes. Une excellente continuation. C'était vraiment un plaisir de te découvrir, et puis on se retrouve pour une autre émission de Showcase. Merci de nous avoir suivis.
Merci.